Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Grace Amzati Massanzi.
Rencontre ce jeudi à Bujumbura au Burundi des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Nous en parlons tout à l'heure avec Fiston Ngoma, notre envoyé spécial à Bujumbura. Conflit intercommunautaire Mbolelengola dans la province de la Tchopo. Les fils et filles nés des parents de ces deux communautés demandent aux autorités compétentes d'agir le plus vite possible afin de mettre fin à cette situation. Le professeur Bobete Matulonga, médecin épidémiologiste et docteur en santé publique de l'Université Paris-Saclay, est l'invité de la rédaction ce soir. Elle séjourne ici à Kinshasa dans le cadre du lancement en octobre prochain d'un master en recherche biomédicale et en épidémiologie. Vous l'entendrez avant la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. À toutes et à tous, bonsoir. Les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs se sont réunis aujourd'hui à Bujumbura. Cette rencontre se tient en prélude du sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. Plusieurs allocutions ont été prononcées successivement par les représentants de la CIRGEL, de la SADC, de l'Union africaine, de l'ONU ainsi que de la RDC et du Burundi. Pour plus de précisions, rejoignons Fiston Ngoma Mayabala, notre envoyé spécial à Bujumbura.
Après l'adoption de l'ordre du jour, les représentants des pays signataires sont passés à l'examen des principales évolutions politiques et sécuritaires, y compris l'état des lieux des processus régionaux de paix. Les ministres et chefs de délégation ont examiné ensuite les projets de feuille de route pour la revitalisation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. D'autres points ont porté sur l'état des lieux des initiatives pour la mise en œuvre des décisions de la 10e région des hauts niveaux du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, les activités en soutien de l'agenda femmes, jeunes, paix et sécurité des différents forats régionaux ont été passés au peigne fin au cours de cette réunion dont la RDC est représentée par le ministre de la coopération régionale Antipas Mbusa Nyamwisi. On pouvait observer à côté de lui Serge Tshibangu et Claude Ibalanki. Après les travaux à huis clos et la pause, les travaux se sont poursuivis sur plusieurs autres points, dont la coopération sécuritaire sur les activités du groupe de contact et de coordination et les actions en soutien à la gestion responsable des ressources naturelles de la CIRGEL. Signalons qu'avec ces assises de Bujumbura, le Burundi assume désormais la présidence du mécanisme régional pour une année après la RDC. Depuis Bujumbura, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Signé en février 2013 par 11 États et 4 institutions internationales et régionales, à savoir les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGEL et la SADC, cet accord porte bien entendu sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région. Mais qu'est-ce qui a été convenu par les signataires de cet accord, Michel Kifindangoy?
Dans l'accord cadre d'Addis Abeba, le gouvernement congolais s'était engagé à mener des réformes sécuritaires et institutionnelles susceptibles à renforcer l'autorité de l'État, à promouvoir la décentralisation, le développement économique et la réconciliation nationale. Le pays de la région, eux, s'était engagé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ni à soutenir des groupes armés, à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Pour sa part, la communauté internationale s'était engagée à rester mobilisée aux côtés de la RDC et des pays de la région pour la mise en œuvre de cet accord. La signature de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région avait pour objet de neutraliser et de démobiliser les groupes armés nationaux et étrangers. Il s'agissait de la première initiative de paix visant à mettre fin au conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale et à résoudre les causes profondes de la violence et de la guerre à répétition à l'est de la RDC. Cet accord avait suscité l'espoir de lendemain meilleur après des décennies de conflits d'exploitation illicite des ressources et des souffrances dans l'est de la RDC.
Michel Kifindangoy sur la fréquence de la paix. Honneur que vous pendant ce temps. Au moins 13 personnes ont été tuées et 4 autres blessées la nuit de mercredi à ce jeudi dans le village de Kizimba, groupement de Bishusha. C'est environ 6 kilomètres à l'est de Kichanga dans les territoires de Rutshuru. Plusieurs sources contactées dans la région parlent d'une incursion d'hommes armés inconnus dans cette zone qui était jusqu'à ce jeudi sous occupation des rebelles du M23. Ces sources déplorent des attaques récurrentes contre les civils depuis quelques jours dans cette région sous contrôle de la force régionale de l'EAC. Bernard Denyangi.
C'est un camp qui hébergeait plus de 1090 ménages et des déplacés qui a été pris pour cible par cette incursion d'hommes armés assimilés aux combattants Nyatura SMC autour de 23 heures locales la nuit dernière dans ce village de Kizimba, déplore plusieurs sources jointes à Kichanga ce jeudi matin. Parmi les victimes, ces sources parlent de 6 enfants, 4 femmes et 3 hommes qui ont été tués et 4 autres hommes blessés. D'autres sources soulèvent une hypothèse d'accrochage entre ces combattants du groupe Nyatura et les rebelles du 1-23 qui auraient été à la base de ces victimes collatérales dans ce camp de Kizimba. Un des survivants de cette attaque nous dit que le camp vient de se vider de tous ses occupants et les quelques combattants M23 qui occupaient encore la zone viennent aussi de quitter pour se diriger vers le chef-lieu du groupement de Bichoucha. Nos sources dans la région déplorent l'absence prolongée des forces de défense et de sécurité de la RDC dans la région, alors que l'EAC, qui déploie la force régionale sur place, n'a pas dans son mandat les charges de gestion administrative et responsabilités dévolues à la PNC. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Je l'ai dit au sommaire, dans la province de la Tchopo, les voix s'élèvent pour exiger l'implication des autorités, de l'élite provinciale ainsi que des chefs traditionnels pour résoudre les conflits intercommunautaires Mbole Lengola. La dernière en date est celle des fils et filles nés des parents Mbole et Lengola. Ils condamnent avec la dernière énergie les deux parties en conflit pour des actes de barbarie qui endeuillent inutilement la province. Ils redoutent que les ennemis de la paix ne puissent jouer à la manipulation pour aggraver la situation. Ils demandent au gouvernement d'agir très vite et en même temps exhortent leurs parents à fumer les allumés de la paix car ils sont contraints de vivre ensemble. Leur représentant maître Thomas Akala, avocat au barreau de la Tchopo, a été joint ce jeudi au téléphone par Jacques Moukonkole.
Ces morts de trop devaient être évitées depuis longtemps. C'est une situation qui date d'au-delà 6 mois. Il y a eu des alertes de partout. En ces jours, on arrive à ce niveau. C'est dur que demain, ça reste encore très fou si toutes les autorités ne s'impliquent pas. Les autorités locales, provinciales, nationales ne s'impliquent pas. Nous risquons encore de vivre les mêmes situations que nous déplorons en ces jours. Pour Beni, Ituri et partout en République démocratique du Congo. Parce que si l'ennemi s'invite à la situation sécuritaire de ces jours, de la ville de Kisangani et de la commune de Lubunga et communautairement, c'est le pire qui va arriver. C'est déplorable. Nous invitons vraiment mes oncles Lengola et mes frères Mbole pour la paix. Privilégions la paix parce que nous sommes obligés de vivre ensemble pour que nous ne puissions pas ouvrir la porte aux ennemis de la paix qui peuvent prendre la situation et politiser cette situation qui va encore nous en deux, parce que c'est nous qui vont perdre les frères, qui vont perdre nos soeurs, les victimes de cette situation.
Par ailleurs, environ 1 000 d'abris du site des déplacés de Savo dans les territoires de Djougou ont été détruits hier à la suite des fortes pluies. Conséquence, plus de 4 000 personnes, essentiellement des enfants, passent la nuit à la Belle Étoile. Selon le comité de ces déplacés, la plupart des abris construits en 2019 sont déjà vétustes et ne résistent plus aux intempéries. Son président plaide pour une intervention urgente en faveur des sinistrés. C'est ce que nous dit à Bounia, Isaac Raymond.
Le site de Savo accueille environ 25 000 déplacés qui vivent dans des abris de fortune construits par les humanitaires. Selon les responsables des 10 sites, la plupart de ces abris temporaires sont si vétustes qu'ils ne peuvent pas résister au vent et aux pluies comme celles qui se sont abattues mercredi dans la région. Emmanuel Ndalo précise que les tiers des abris des sites ont été emportés. Leurs occupants estimés environ 4 000 déplacés passent la nuit à la Belle Étoile, ce qui les expose surtout les enfants à des maladies comme la pneumonie, la bronchite ou l'asthme pendant cette période des pluies. Il lance un appel au gouvernement et aux humanitaires pour la construction des nouveaux abris, mais aussi en faveur d'une assistance en articles ménagers qui ont été détruits.
On a comptabilisé, ça fait 1 500 déjà abris qui ont été apportés par les vents. Ces ménages, leur condition de vie est vraiment trop difficile. Je demande aux humanitaires des secteurs des abris, ils nous arrivent en aide, puisque avec le moment de la pluie, c'est trop difficile.
Le gouvernement provincial ne s'est pas prononcé à ce sujet. Des sources humanitaires indiquent que certaines zones ne sont plus accessibles à la suite de l'activisme des groupes armés dans les territoires de Djougou. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Sud Kivu, dans le territoire de Calais, 4 enfants d'une même famille sont morts engloutis dans l'écroulement de leur maison résidentielle. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à hier mercredi au village de Kikunda, proche de Minova. Le père des défunts explique que l'incident s'est déroulé aux environs des horaires. Ayant été surpris par une forte pluie, une pente derrière la maison s'est écroulée sur la maison et causant ainsi la mort des deux enfants âgés de 6 ans et 3 ans. Les parents ont tenté d'épargner les deux autres enfants en les plaçant dans une maison voisine. Cette autre maison a été également engloutie par la boue venant d'une pente, causant également la disparition de ces deux autres. Les quatre victimes ont été inhumées à l'absence de leurs parents qui suivent les soins dans une structure médicale de la cité de Minova. Ici à Kinshasa, en plus bref, la morgue centrale annonce pour le dimanche 7 mai l'inhumation des corps des indigents. Cela se fera au cimetière des Maloukou, communément appelé Fula-Fula. Dans un communiqué qui nous est parvenu hier, la direction de la morgue demande à la population de ne pas céder à la panique, car toutes ces inhumations auront lieu la journée au vu et au su de tous. Elle invite également la population kinoise au respect des morts. Autre nouvelle sur Radio Okapi, les épreuves des hors-session des examens d'État se dérouleront le 8 mai prochain en RDC. La confirmation est de l'inspecteur général de l'EPST. D'après Jacques Odia Musungai, toutes les dispositions, que ce soit au niveau national ou provincial, ont été prises pour que tout se passe dans le calme. Et cela malgré les revendications hier mercredi ici à Kinshasa des inspecteurs de l'EPST. En effet, ces inspecteurs étaient dans la rue pour réclamer entre autres la majoration de 30% de leurs primes conformément à l'accord de Mbola Lodge, mais également les non-paiements par le gouvernement des intervenants dans le cadre de la rédaction des diplômes 2020, 2021, 2022 et aussi de la correction des épreuves certificatives. L'inspecteur général de l'EPST Jacques Odia Musungai, tout en reconnaissant les revendications légitimes des inspecteurs, les appelle au calme et à privilégier l'avenir des enfants. Il est dit au micro de Jacques-Yves Molima.
À l'heure qu'il est, les mâles sont déjà dans toutes les provinces. Les mâles contenant les questionnaires des épreuves de la hors-session. Et les dispositions se prennent toujours au niveau de la province. Les mâles sont là. Le 8, c'est la passation de la dissertation. Écoutez, messieurs, revendiquons paisiblement. C'est notre droit. C'est vrai, ça fait mal. 2 ans, 3 ans, on n'est pas payé. Même moi, mettez-vous à la place de ces gens. Ça fait mal. Mais il faut regarder aussi, il faut aller plus loin que ça. Ne perturbons pas le déroulement de l'examen d'État. Nous aurons tout gâché. Nous avons d'autres étapes. L'examen d'État, c'est tout un cycle. Nous avons également le TENA-SOSP. Nous avons l'ENA-FEP. Vous avez beaucoup d'étapes de ces évaluations certificatives. Mais dans un premier temps, observons d'abord. Laissons les choses aller. Tel que je vois les états-majors, nos autorités se démener, j'ai l'espoir que les choses marcheront.
Merci de nous recevoir au quartier Tokolote et Kimbuyungu à Kindu dans la province du Maniema, où face à la persistance de l'insécurité dans la province en général et dans la ville de Kindu en particulier, les gouverneurs intérimaires de cette province accordent un moratoire de 48 heures au groupe dit d'autodéfense qui disent sécuriser la population dans les différents quartiers afin de s'identifier au commandant ville ou soit au bourgmestre. Selon Afani Idrissa Mangala, cette mesure se justifie par le fait que ces derniers temps, ces jeunes commettent des dérapages pendant leurs opérations. Aussi, ce n'est pas à eux de sécuriser la population en lieu et place des services attitrés. Afani Idrissa Mangala s'est confié à Florence Kizalunga.
Il s'est créé le groupe de jeunes non autrement identifiés qui se sont improvisés dans différents quartiers et ils se mettaient à dire que non, c'est eux qui sécurisent la ville, leurs entités respectives, mais en commettant des bévues. C'est pourquoi je leur avais accordé 48 heures. Ils doivent se faire identifier au commandant ville ou soit au bourgmestre. Dans 48 heures, s'ils ne veulent pas dégarnir leur position qu'ils étaient en train d'occuper, alors le gouvernement va s'en occuper et les mettre en prison. Parce que nous avons enregistré des infiltrations de personnes mal intentionnées qui commencent maintenant, au lieu de sécuriser les paisibles citoyens, se mettent maintenant à insécuriser la population. On ne peut pas laisser la sécurisation de la population entre les mains des civils qui ne sont pas identifiés en tant que tels. Et pourtant, le gouvernement a créé ce qu'on appelle le comité local de sécurisation de la ville, géré par le bourgmestre et le commandant des commissariats des communes. Mais malheureusement, dans d'autres quartiers, ce sont les jeunes qui s'organisent eux-mêmes. Même et commence à insécuriser la population, c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette mesure-là.
Actualité internationale. La police belge a interpellé ce jeudi 7 personnes présentées comme des fervents partisans du groupe État islamique et soupçonnées de préparer un attentat en Belgique, a annoncé le parquet fédéral belge. 9 perquisitions ont été effectuées dans l'ouest du pays, notamment à Ostende, Gand et Menin, une commune limitrophe de la France. Les suspects sont pour la plupart d'origine tchétchène, a précisé le parquet. La cible du projet d'attentat n'est pas connue à ce stade.
L'invité.
Il s'agit du professeur Bobete Matulonga, médecin épidémiologiste et docteur en santé publique de l'Université Paris-Saclay. Elle est ici à Kinshasa dans le cadre du lancement en octobre prochain d'un master en recherche biomédicale et en épidémiologie. Un projet conjoint Université Paris-Saclay-UPC, Université protestante au Congo, naît d'un déficit en nombre des épidémiologistes en République démocratique du Congo. Le professeur Bobete Matulonga s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Professeur Bobete Matulonga, bonjour.
Bonjour, monsieur Missenga.
L'Université Paris-Saclay, l'Université protestante au Congo UPC, lance en octobre prochain un master en recherche biomédicale et épidémiologie. D'abord, professeur, comment est né ce projet?
Au fait, l'épidémiologie a toujours été un vrai besoin du pays et donc ce projet est né depuis plusieurs années. Il a été en état embryonnaire depuis bientôt un peu plus de 3 ans et aujourd'hui il sort des terres. Au fait, on part déjà de l'idée du réseau africain d'épidémiologie des terrains qui veut que on ait au moins un épidémiologiste de terrain pour 200 000 habitants. Et on est très loin de ces chiffres en République démocratique du Congo qui manque aujourd'hui plus de 2500 épidémiologistes.
Alors, qui sont éligibles à la formation que vous allez lancer?
Cette formation est principalement ouverte aux médecins et aux autres professionnels de santé, les pharmaciens, mais aussi tous les autres professionnels qui ont au moins un niveau Bac plus 5. Et nous voulons les former en santé publique sur un modèle français en termes des méthodologies, mais en restant dans les contextes congolais. Et l'avantage également pour nous, parce que moi je suis féministe, je l'avoue, dans notre modèle que nous proposons, nous voulons également l'équité des genres dans la formation en santé publique. Et donc dans ces modèles qui permettent aux femmes d'être formées sur place, mais sur des méthodologies internationales, ça nous permet d'ouvrir la formation des santé publique aux femmes, parce que d'habitude, les formations des qualités, il y en a au Congo, mais il n'y a pas beaucoup de places. Et donc, les personnes qui veulent se former davantage aux méthodes internationales se déplacent vers les pays étrangers. On connaît la culture, les modes de fonctionnement de la société congolaise. C'est pas évident pour une femme, pour une mère, de se déplacer pour aller se former à l'étranger pendant 2 ans, 3 ans.
Est-ce qu'il y a une date précise pour le début des cours?
Oui, la rentrée académique est prévue pour les 9 octobre 2023. Mais avant octobre 2023, septembre, nous allons organiser une pré-rentrée essentiellement dédiée aux personnes qui ne sont pas formées en Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, afin de mettre à niveau nos candidats pour qu'ils soient au même niveau que les autres candidats internationaux français. Et ce sera également l'occasion pour remettre les matériaux didactiques. On remettra un ordinateur ainsi que des clés USB et tous les logiciels nécessaires à nos candidats qui vont être formés.
Il y aura des cours à distance.
Au fait, la formation, elle est organisée en comodal, comme on dit. C'est-à-dire, il y a une partie qui est organisée en distanciel et une autre partie qui est organisée en présentiel. La partie en distanciel, c'est essentiellement les cours dispensés par les professeurs français. Ils mettent à disposition tous les matériels didactiques et ils organisent également certaines séances en direct, mais en distanciel. Et il y aura un moment où les professeurs français vont se déplacer ici à Kinshasa pour entrer donc en contact avec les étudiants et toujours pour la partie distancielle, les étudiants congolais seront également invités à Paris pendant 2 semaines pour s'imprégner des modalités d'enseignement français. Et puis, il y a la partie totalement en présentiel qui sera dispensée par les professeurs congolais. Et les professeurs congolais qui enseigneront au cours de ces masters seront eux également invités à venir donner des séminaires aux étudiants français. Donc, c'est vraiment un modèle d'échange bilatéral. On n'est plus dans un modèle où les Français viennent imposer, où ce sont que eux qui ont des choses à dire. Je pense que nous, Congolais, les professeurs congolais, les enseignants congolais, les étudiants congolais ont aussi à dire, ils ont aussi à donner aux étudiants français. Donc du coup, ce modèle est construit vraiment dans les deux sens, bilatéral, échange franco-congolaise dans les deux sens.
Donc c'est un rendez-vous du donner et du recevoir.
Voilà, c'est vraiment ça, parce que je pense que nous, au Congo, on a aussi beaucoup d'expériences des gestions d'épidémies telles que Ebola, choléra. Ce sont des choses que les Français ne connaissent pas. Ils les connaissent peut-être en théorie, mais nous, nous avons cette pratique-là et je pense que c'est le moment que les voix congolaises s'élèvent aussi pour enseigner aux Français notre expérience.
Professeur Bobette Matulonga, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Le professeur Bobette Matulonga a été interrogé par Honoré Misenga Kalala. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, coordonné par Richard Junior Kamunga, sous la supervision éditoriale de Pele Kipela Mondo. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci pour votre fidélité et excellente suite de l'antenne au Kapi Soir avec Christelle Fritimangwa. Au revoir.